Bonjour, c'est Lucie, c'est le début de l'émission d'information locale et au sommaire aujourd'hui. L'info du jour, la ville de Rennes qui avance sur son plan climat, air, énergie territoriale. Une interview avec Front de Mer pour annoncer le braquage de la fête des mers samedi et dimanche. Il y aura de la musique, dont une presque nouveauté, La mort, tout un art, 13e épisode, ça s'est réalisé par Lucille Milliard sur le thème de la BD. Et puis deux recommandations pour le week-end, à chaque fois à la ferme. Bienvenue dans la Rennes.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la Rennes !
Vive la Rennes !
Allez, on commence avec l'info du jour que j'ai retenu pour vous. C'est la ville de Rennes qui avance sur son plan climat air énergie territorial, plan dans lequel elle s'engage à multiplier par 3 l'utilisation des énergies renouvelables d'ici 2030. Et ça avance donc d'abord avec l'inauguration d'une centrale photovoltaïque sur le toit de l'école élémentaire Jacques Prévert. On est dans le quartier Bréquigny. Pour ça, elle a travaillé en partenariat avec une coopérative citoyenne qui s'appelle Sirène, coopérative qui a été créée par des membres de l'association Énergie du Pays de Rennes. Concrètement, ce sont des habitants qui financent de nouveaux projets de centrales photovoltaïques et les toitures d'établissements scolaires mais aussi de bâtiments privés leur sont mises à disposition. L'école Jacques Prévert a été le lieu de la première opération du collectif citoyen Sirène dans le cadre d'un projet qui s'appelle Éclair, 7 lettres pour énergie citoyenne locale d'autoconsommation innovante Rennes Sud. 300 mètres carrés de toiture ont été couverts dans l'école avec une production attendue de 64 000 kWh. C'est la consommation d'une quinzaine de foyers français. L'énergie produite, elle est ensuite consommée sur place, mais aussi par d'autres bâtiments de la ville, des habitants et des commerçants du quartier, le tout à un coût maîtrisé. L'autre chantier dont je voulais vous parler, c'est celui de l'extension du réseau de chaleur Rennes Sud, un réseau exploité par une filiale du groupe Engie. Pour info, il s'étend sur 46 km et nourrit, grâce à la transformation de déchets, de bois, de haies, un système de chauffage collectif pour environ 31 000 équivalents logements sur les quartiers au sud de la ville. Un diagnostic amène aujourd'hui la ville de Rennes à étendre ce réseau de chaleur. Une nouvelle unité de production pourrait être implantée sur la ZAC, zone d'aménagement concerté, de la Courrouze, tout près du parking relais Gaîté. L'objectif, c'est de proposer ce service public à un nombre croissant d'usagers à Rennes et à Saint-Jacques-de-la-Lande. Allez, après l'info du jour, c'est l'heure d'une première interview. Priscilla Zamore, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes membre du Front de Mer, donc Front de Mer qu'on retrouve à Rennes mais aussi ailleurs, le premier syndicat de parents qui fait ce week-end son braquage de la fête des mères. Ça se passe dans le quartier de Maurepas à Rennes. Certains vous connaissent peut-être avec votre casquette de vice-présidente à Rennes Métropole. Aujourd'hui, je vous reçois avec une autre casquette, une casquette associative, avec donc ce Front de Mer installé entre Rennes, la région parisienne et puis aussi avec d'autres Fronts de Mer ailleurs en Europe.
Oui, c'est ça. Donc on a effectivement un QG à Bagnolet dans le 93 où on a créé la première maison de l'écologie populaire en partenariat avec Alternatiba. Donc on dispose d'à peu près 1000 m² dans lequel on fait plein d'actions, plein d'événements, plein d'expos, plein de choses autour de l'alimentation aussi, enfin voilà, sur l'écologie populaire. Et puis on a effectivement une antenne à Rennes qui est installée principalement à Maurepas, mais on a choisi d'avoir un rayonnement un peu sur l'Ille-et-Vilaine, et on a aussi une antenne à Bruxelles et à Barcelone.
L'idée du Front de Mer, c'est de mobiliser les parents des quartiers prioritaires, quartiers populaires de la ville, sur un combat multiple, un combat écologiste, mais aussi féministe et antiraciste. Le lancement à l'échelle nationale, c'était en 2016 avec Fatima Wassak et Gundo Diawara. Pour Rennes, un peu plus récent, c'était fin 2021, je vous avais reçu à ce moment-là. Il s'est passé quoi en un an et demi pour le Front de Mer à la Rennaise ?
On a organisé des actions, principalement une marche contre les violences suite à un meurtre qui a eu lieu l'année dernière, au mois de juin. Donc on a fait une marche pour la paix, pour l'égalité, dans l'espace public. C'était assez inédit. C'est pas forcément la culture rennaise de faire des marches comme ça. Il y a aussi tout un travail qui a été fait au national sur un groupe de travail sur la lutte contre le validisme avec des parents en situation de handicap. On a fait un an de focus group avec des personnes concernés pour éditer un guide d'autodéfense psychologique et administratif, on va dire, pour aider les parents qui vivent des inégalités. par rapport à leurs enfants en situation de handicap. Et on a aussi, en Belgique, édité un guide d'autodéfense psychologique et juridique pour les femmes victimes de violences post-séparation, et notamment par rapport à ce nouveau phénomène dramatique qui est le concept de l'aliénation parentale. Donc voilà, du coup, on s'auto-organise avec de l'expertise juridique et puis de l'expertise d'usage, entre guillemets, par et pour les concernés, voilà.
Ce concept d'aliénation parentale, en quelques mots, c'est considérer que la mère manipule son enfant contre le père dans le cas d'un couple hétérosexuel qui se sépare.
Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Avec des fois des situations tout à fait dramatiques où des pères peuvent être accusés d'agression sexuelle et en fait ils sont reconnus comme innocents parce qu'ils considèrent que la mère a manipulé l'enfant. Et voilà, on a eu différents exemples dans les médias ces derniers temps, et donc on a décidé de se mobiliser là-dessus et aussi d'interroger la situation de mères qui sont racisées et qui perdent assez souvent la garde de leurs enfants quand elles ont fait des enfants avec des hommes blancs. Et puis après, il y a tout le travail qu'on fait à Rennes, donc au-delà de la marche, il y a aussi le parcours d'écologie populaire qu'on a fait cette année.
Mené avec plein d'autres associations.
Exactement, Cœur Esquem, Extinction Rebellion, le GRPAS, le CRIDEV aussi. Et donc pendant 6 mois, on a fait 3 rendez-vous par mois autour de l'écologie populaire avec du ciné-débat, une soupe rebelle et puis souvent une causerie. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a invité dernièrement Fatima Ouassa pour présenter son livre L'écologie pirate.
Et donc tout ça, ça se passait dans le quartier de Morpa, histoire de sortir le combat écologique du centre-ville. Le projet Front de mer, il fonctionne aujourd'hui de façon 100% bénévole, sans salariés. Vous, vous êtes investi au niveau national. Est-ce qu'on peut dire combien il y a de personnes dans les équipes aujourd'hui ?
Alors, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre précisément. On n'a pas fait les derniers comptes. Et c'est surtout l'objet d'un gros travail qu'on va faire cet été. En fait, chaque année, on organise les universités d'été de Front de mer. Et donc, on se pose ensemble, on loue un écolieu, on prend du temps pour à la fois avoir du répit et en même temps, bon, travailler quand même. Mais en tout cas, je dirais plus d'une centaine d'adhérents. Et puis, j'espère qu'on aura des nouvelles adhésions ce week-end avec le braquage de la fête des mères à Morpa.
On va y arriver à cet événement et à sa programmation. Juste pour revenir à l'échange qu'on avait eu fin 2021 au moment du lancement du Front de mer ici à Rennes, vous m'aviez parlé un peu du ras-le-bol de la figure de la mère tampon, la mère à qui on demande de préparer des loukoums, des acras pour les fêtes de fin d'année, mère sur laquelle on fait peser l'éventuel échec scolaire de son enfant. Vous, vous défendez une autre figure, celle de la mère dragon.
Oui, tout à fait. Bah, c'est ce qu'on va essayer de présenter en tout cas ce week-end à travers les différentes causeries, puisque on est effectivement des mères très engagées en termes de lutte pour l'égalité, pour la dignité de nos enfants et puis aussi pour les questions par rapport au réchauffement climatique. On a quand même 2 combats majeurs, c'est ce réchauffement climatique et la banalisation de l'extrême droite. Donc dans un contexte comme ça, pour nous, il nous semble primordial de nous affirmer, de prendre la place, de braquer l'espace public. Parce qu'entre le narcotrafic et la présence policière, il y a quand même parfois un sentiment de plus avoir le pouvoir d'agir, de plus pouvoir être dans l'espace public.
On associe souvent le combat écologiste à un public qui aurait les moyens, qui aurait un capital nécessaire à ce combat écologiste. Ça prend comment dans les quartiers populaires à Morpa et ailleurs ? Est-ce qu'on fait de l'écologie autrement avec, on le sait, des budgets qui ne sont pas les mêmes ?
Il y a déjà pour nous une responsabilité d'être dans la valorisation des savoir-faire déjà qui sont le fruit d'héritage, hein, donc sur l'alimentation, le fait maison, etc. Bon, même si ça me produit de la charge mentale, hein, on va pas se mentir. Et aussi la question du réemploi toujours, hein, enfin c'est toujours une entrée économique à la base peut-être, mais ça n'empêche que c'est aussi un vrai levier d'écologie. Donc moi je suis pour qu'il y ait une ressourcerie dans chaque quartier par exemple populaire et pas que dans chaque quartier tout court. Une ressourcerie de proximité, une solution de seconde main, aussi pour des solutions alimentaires. Alors bon, il y a le vrac, il y a plein de choses qui existent à Rennes, mais c'est vraiment de valoriser la transmission, les mémoires et tout. Et puis après, il y a aussi tout le volet sur la question de la terre, dont parle très bien Fatima dans son bouquin L'écologie pirate. Se dire que la terre qui a toujours été au cœur des préoccupations écologiques, elle n'est pas pensée en tant que telle dans les quartiers populaires. Parce qu'en fait, on nous a tellement répété qu'on n'était pas chez nous, que voilà. Du coup, c'est aussi se réapproprier ça et puis utiliser des codes qui soient vraiment de la culture populaire, quoi. Les gros rapports et les conférences avec des PowerPoints, c'est juste pas possible, en fait. Et c'est pour ça que là, pour ce braquage, on a décidé de aussi nous emparer cet imaginaire de l'écologie pirate. Et puis, tant qu'à faire, faire un focus aussi sur les Antilles. Alors, je vous cache pas qu'en tant que Bretonne et Martiniquaise, j'ai quand même largement appuyé pour qu'on fasse un focus.
C'était votre idée, dites-le.
Ouais, voilà. Mais c'était ça aussi, et dire, bah, en fait, il faut ouvrir le champ des possibles, il faut nous donner de l'air, faut qu'on prenne le large, et c'est ça, en fait, aussi, quoi.
Le braquage de la fête des mères, ça se passe donc dans le quartier de Maurepas, samedi 3 et dimanche 4 juin. Le samedi, à partir de 14h et jusqu'à tard dans la nuit, on va le dire comme ça, et puis le dimanche, à partir de 11h et jusqu'à la fin d'après-midi. On le redit, la fête des mères en France, elle est traditionnellement héritée du régime de Vichy, donc sous Pétain. En tout cas, elle a été institutionnalisée à ce moment-là. C'est là qu'on a commencé à faire des bricolages aux enfants dans les écoles. C'est quoi votre problème, vous, avec la fête des mères ?
Bah, en soi, moi, j'ai pas de problème si mon enfant m'offre un collier de pâtes pour la fête des mères. C'est pas ça. J'ai un gros problème quand on veut m'offrir un épilateur, un robot mixeur, un aspirateur. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec le capitalisme. Ça, c'est pas nouveau. Et on a un problème aussi avec ces maternités qui, je trouve, en tout cas pour les femmes racisées des quartiers populaires, très enfermantes, où on est réduit à un rôle où il faut vraiment tenir les enfants, il faut pas qu'ils aillent trop dans l'espace public, avec des injonctions institutionnelles qui sont parfois difficiles à porter. Et puis aussi, c'est vrai qu'avec la montée de la précarité et la crise et tout, on a vraiment besoin de créer des espaces communs, de joie, de fête. La fête est éminemment politique, le dance floor est politique, et c'est important aussi de se retrouver là et puis de prendre le micro et dire ce qu'on a à dire et s'auto-organiser. L'auto-organisation citoyenne, c'est hyper important.
C'est la première fois que cet événement se passe à Rennes, mais il a déjà deux éditions derrière lui, ce braquage de la fête des mères. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour célébrer la maternité, mais sans essentialiser les femmes ? On marche un peu sur des œufs, c'est sans doute en ouvrant le combat, là, comme vous le faites, qu'on sort juste de la question de la maternité.
Ah bah, c'est en ouvrant le combat, c'est en faisant aussi des alliances. Enfin, déjà, on assume très clairement que nous, on a un sujet majeur, c'est nos gosses. Enfin, moi, c'est l'avenir de nos enfants. Donc, on va pas, sous prétexte que oui, féministe, machin, il faut pas aller sur ce terrain-là, fermer les yeux. Enfin, moi, c'est ce qui m'anime au quotidien, de savoir comment ma gamine va vivre dans un monde qui est déjà pratiquement détruit par nous-mêmes, en fait. Et quel héritage on va lui transmettre, etc. Et comment elle va pouvoir s'épanouir à l'école, dans sa trajectoire professionnelle, amoureusement, tout ça. Donc, c'est des sujets qui nous animent. C'est pas essentialisant, c'est juste une question de responsabilité, en fait, déjà. Et puis après, c'est en faisant des alliances. Donc par exemple, si vous regardez le programme, on est avec différents collectifs. Il y a le collectif Bana Serbie qui est au Blône qui vient. Ça, c'est super. On est content de vraiment ouvrir et de ne pas rester qu'à Maurepas. On a aussi Malcolm Ferdinand qui est un chercheur, enseignant-chercheur spécialisé sur les écologies politiques en Outre-mer et qui a fait son bouquin L'écologie décoloniale, qui a eu le prix de la Fondation d'écologie politique, qui vient et qu'on vient chercher aussi sur des questions sur lesquelles il n'est pas forcément toujours invité. On va avoir une causerie qu'on a appelée Zoukologie, sur la mémoire des musiques qui nous inspirent, qui nous donnent du répit, qui nous donnent de la force.
Ça, c'est samedi 3 juin à 18h30.
Et puis, il y a d'autres collectifs. Moi, je parle beaucoup d'alliances des luttes, et pas forcément de convergence, mais vraiment d'alliances, en se disant chacun peut être soi-même, mais on peut travailler ensemble, et en se disant qu'on a un objectif commun, c'est quand même d'être un peu heureux.
Quand même.
Sans être dans quelque chose de bisounours. Et puis, montrer la Caraïbe et toute sa vitalité et sa richesse, c'est aussi déconstruire tout le mépris qu'il peut y avoir sur notre culture, sur ce qu'on apporte.
Le lieu du rendez-vous, donc ça se passe dans le quartier de Maurepas, à l'Agora du Clair des Tours et au pôle associatif de la Marbaudet. On est vraiment dans le cœur du quartier. Samedi 3 et dimanche 4 juin, vous le dites, on prendra la direction des Antilles avec une figure qui sera mise en lumière, la figure de Calypso Tia Dalma. Qui est-ce ?
Alors, qui dit écologie pirate ? Moi, direct, j'ai pensé Pirates des Caraïbes. Sauf que je ne veux absolument pas parler de Johnny Depp.
C'est pas le moment.
C'est vraiment... Non, mais de toute façon, même sans le Festival de Cannes, c'est mort. Par contre, il y a une figure dans le film, moi, qui m'a beaucoup marquée. Elle a deux noms, c'est Calypso et Tia Dalma. Et qui, en fait, si vous avez vu le film, c'est la prêtresse vaudou, la sorcière guérisseuse. Il y a tout un imaginaire vaudou autour d'elle. Et elle est déesse de la mer aussi. Donc, elle a été enfermée dans un corps. Et du coup, cette figure-là, elle nous paraît hyper intéressante. Déjà aussi parce que c'est une des rares figures noires du film. Et puis en fait, elle renvoie à tout l'imaginaire de la Caraïbe. Et puis elle est très indépendante, elle a beaucoup d'énergie, c'est une femme puissante. Donc on voulait mettre à l'honneur cette figure-là.
Il y aura en tout 5 causeries proposées durant le week-end. Je brosse là un peu le programme. 3 causeries le samedi 3 juin. Il sera question d'éducation et de transmission, d'enfants en situation de handicap et de parents en lutte contre le validisme. Et puis à 18h30, il y aura donc cette causerie sur la zoukologie, la musique afro-caribéenne comme objet de lutte et d'écologie de soi. 2 causeries sont également organisées le dimanche 4 juin. Il sera question des violences, des discriminations et de la liberté de circuler des enfants dans l'espace public. Et puis de charges mentales, raciale et environnementale. Un des temps forts, ce sera le samedi soir avec un temps festif. On ne l'a pas dit, mais durant tout le week-end, il y a évidemment des ateliers proposés aux enfants avec un collectif dont on parle souvent qui s'appelle La Bulle, qui prend vraiment soin des enfants pendant les rendez-vous militants. On s'arrête sur la soirée du samedi soir. Ça va ressembler à quoi ?
Alors, juste quand même une petite parenthèse, si vous me permettez, sur les enfants. La façon dont on réfléchit la place des enfants, c'est pas une garderie. On réfléchit vraiment à des animations qui sont en lien avec le sujet. Donc il y aura une chasse au trésor, il y aura du maquillage sur la piraterie, enfin il y aura plein de choses. Et voilà, c'est pas de les occuper, c'est vraiment qu'ils puissent avoir un espace aussi pour vivre ce moment-là avec nous et en même temps que les parents puissent être, enfin les familles
disponibles, voilà, disponibles pour réfléchir et
voilà,
discuter.
Exactement. Sur la soirée, et ben voilà, on ouvre le bal entre guillemets, bal créole, avec cette causerie sur zoukologie là. Et donc là, c'était aussi une manière de dire que on va avoir en amont de ce DJ set avec DJ Danny qui est un membre de la famille Nomade, donc qui est angolais et qui va mixer. C'est vraiment de poser les choses en disant voilà, il y a du mépris à l'égard de, notamment du Zouk, qui est quand même, je reprends Kassav, hein, musicalement, c'est quand même le premier groupe francophone à avoir rempli le Stade de France, qui a fait le plus de scènes à l'étranger, qui a un niveau de notoriété, comme je dirais un peu Aya Nakamura, qui est la première femme francophone écoutée dans le monde. Et ben voilà, ce sont des musiques ancestrales pour nous, enfin voilà, qui ont vraiment du cœur et qui sont travaillées. Et évidemment, il y a un versant commercial, superficiel et tout ça, mais comme dans tous les secteurs, les genres musicaux. Et c'est vraiment un genre pour nous qu'il faut célébrer, qui nous enjaille et qu'on voulait mettre un peu à l'honneur.
Donc le temps festif, il commencera à 20h le samedi soir. Puis autre temps festif, cette fois autour d'une table avec un banquet contre le racisme qui est proposé dimanche 4 juin à partir de 12h30, toujours avec la famille Nomade.
Oui, tout à fait, qui est vraiment une super asso de personnes d'origine étrangère qui ont des trajectoires et des parcours de vie incroyables et qui se sont auto-organisées en collectif et qui organisent effectivement des repas. Et donc ils font le choix à chaque fois de choisir quelqu'un parmi eux qui devient chef. Et là, ils sont allés chercher une femme pour être chef guadeloupéenne et qui va préparer un banquet. Et on rappelle que c'est à prix libre.
On a déjà annoncé assez rapidement, j'avoue, les causeries du dimanche 4 juin. En plus de ce format causerie, il y aura un temps plutôt de groupe de parole avec l'association Déconstruire, qu'on a aussi souvent reçu dans cette émission d'information locale. Il y sera question de quoi dans ce groupe de parole ?
Alors, l'idée, c'est de voir comment préserver nos enfants face au racisme à l'école. Et voilà, on connaît l'expertise de Déconstruire. On est vraiment très, très, très heureuse qu'elle puisse participer à cet événement.
En plus de tout ça, également au programme du week-end, un forum associatif pour l'égalité en compagnie de la Ligue des droits de l'homme et d'autres structures associatives. Également un atelier sérigraphie, puis un stand librairie avec l'Astrolabe, la librairie de quartier. Je vous représente Priscilla Zamor, donc vous êtes l'une des membres de Front de Mer installée notamment à Rennes. C'est le premier syndicat de parents qui fait son braquage de la fête des mères ce week-end. Rendez-vous samedi 3 et dimanche 4 juin dans le quartier de Maurepas à Rennes. On peut retrouver la programmation sur les réseaux sociaux, vous êtes sur Facebook, Instagram, et vous avez également un site internet front2, le chiffre, mer.org. On se quitte avec votre choix musical. Quel est le morceau qu'on va entendre dans un instant ?
Alors, j'ai choisi un son que j'écoute beaucoup en ce moment qui s'appelle Moins paré, qui veut dire en créole, donc c'est du créole qui veut dire je suis prêt, donc en l'occurrence je suis prête, de Eric Pédurant, pardon, et voilà, j'aime beaucoup sa musique.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Est-ce que vous parlez, vivons la vie plus belle ? Moins paré. Sous paré, vivant l'amour plus fort. Moins paré. Et sous paré, changer vieille habitude. Moins paré. Apprenez mais qui j'en nous différent. Moins paré. Et sous paré, vivant l'amour sincère. Moins paré. Et moins paré, effacer le passé. Moins paré. Mais sous parer, il commençait, mettez les comptes à zéro. Et sous parer, redémarrer, même les motels à prendre l'eau. Et sous parer, bloquer, mania dans l'inconditionnel. Ah, et sous parer, pour nous faire le péché originel. Ah, et sous parer, moi viens trancher au compte avocat. Moi parer. Et sous paré pour nous pé frapper boulala. Et sous paré, y commencer, mettez les comptes à zéro. Et sous paré, redémarrer, même les mots, t'es là à prendre l'eau. Petit pas la vie qu'a déroulé devant nous. Tous les jours, nous qu'à songer. Si c'est pas pour demain, c'est pour qui joue. Et qui m'ont choisi pour la vie. Qui m'ont choisi pour la vie. Qui m'ont choisi pour la vie. Et c'est moi ou choisi pour la vie. Qui m'ont choisi pour la vie. Oh, qui m'ont choisi pour la vie. Et qui m'ont choisi pour la vie. Et c'est moi ou choisi. Ah, et sous parer, il commençait. Mettez les comptes à zéro. Et sous parer, redémarrer, même les mots, t'es là responsabilité, oui. Est-ce que vous parlez, tout va bon Dieu, tout bon témoin, non. Est-ce que vous parlez, vous qui prenez responsabilité, oh. Est-ce que vous parlez, vous qui parlez, oh. Est-ce que vous parlez, ah. Aïe, est-ce que vous parlez, vous commencez, mettez les comptes à zéro. Est-ce que vous parlez, redémarrer, même les mots, t'es là à prendre l'eau. Moi, parer, sous parer. Moi, parer. Moi, parer. Moi, parer. Qui m'ont choisi pour la vie? Qui m'ont choisi pour la vie? Pour la vie, et c'est moi. Aïe, qui m'ont choisi pour la vie, oh. Qui m'ont choisi pour la vie, ah. Oh, yeah, yeah, yeah.
Mouen Paré par Éric Pédurant, c'est le choix musical de mon invité qu'on vient de quitter. Ce single, il est sorti au mois de mars et il annonce un nouvel album à venir pour cet artiste antillais qui nous vient de Guadeloupe. Vous écoutez Canal B sur le 94.0. On passe au second contenu du jour, c'est le 13e épisode de La mort tout un art, un podcast réalisé par Lucille Millard.
Bonjour, je suis Lucille Millard, la réalisatrice du podcast La mort, tout un art. Vous allez écouter le dernier épisode de la saison. Je tiens à remercier Canal B pour cet espace de diffusion. À la rentrée, le podcast change de format, les épisodes seront plus longs. Un choix pris au vu du contenu des entretiens. Il sera toujours disponible sur toutes les plateformes de podcast. Belle écoute. La mort, tout un art. L'art de sélectionner des bandes dessinées sur la mort et le deuil. Avec Isabelle Appéré et Aurélien Bécu. Aurélien, vous êtes bibliothécaire au Champ Libre, en charge de la coordination des collections littérature enfants, ados et adultes. Vous étiez déjà venu dans ce podcast pour nous présenter une sélection d'ouvrages sur la mort et le deuil dans la littérature jeunesse. Aujourd'hui, vous êtes accompagnée par votre collègue Isabelle Appéré, bibliothécaire, spécialiste du fonds adulte et jeunesse en littérature. Alors vous nous avez préparé une nouvelle sélection, cette fois autour de la bande dessinée, du roman graphique et du manga. Dans cette sélection, vous avez exporté 5 thèmes.
Voilà, c'est ça, on a repéré 5 thèmes en fait. Donc le premier thème, c'est la BD comme représentation du processus de deuil. Ensuite, la mise en scène de la fin de vie, avec toutes les problématiques qui peuvent s'y attacher, comme l'euthanasie par exemple, qui est dans l'actualité en ce moment. Ensuite, on a repéré une thématique plus originale, moins attendue peut-être, c'est la mort comme élément de moteur dans le scénario lui-même de la bande dessinée. Ensuite, toute la parade des zombies, morts-vivants, vampires. La dernière rubrique qu'on a choisi de mettre en valeur, c'est quelques petites curiosités et surtout quelques bandes dessinées qui essaient de nous faire rire et qui parviennent à nous faire rire avec ce thème, la mort, donc l'humour dans la bande dessinée.
Eh bien, on commence, vous allez nous présenter tout ceci donc par la première rubrique qui est la BD comme représentation du processus de deuil.
Donc, ce qu'on a repéré, c'est qu'il y a une multitude de BD, enfin une multitude de BD qui travaille la question du deuil plus que la question de la mort. On avait déjà repéré cette manière de fonctionner aussi pour ce qui concernait la littérature jeunesse. Et là, ces BD, elles travaillent vraiment la question de l'après, c'est-à-dire comment vivent les vivants, qui sont parfois les auteurs de BD, ou les scénaristes, ou les illustrateurs, après la perte de l'un des leurs. On peut trouver des exemples assez connus, comme une des dernières publication de Jean-Louis Tripp, le petit frère, qui évoque la perte de son jeune frère pendant des vacances qu'il passait en famille.
Alors une seconde aussi qui est sur le même thème, la mort d'un frère, c'est une BD qu'a écrite Pascal Girard, c'est un auteur de bande dessinée québécois, qui s'appelle Nicolas. Et là la particularité c'est qu'il est enfant lui-même quand il perd son petit frère. Et c'est une BD très délicate, avec un dessin, une BD qui est que en noir et blanc, avec des dessins à la Sampé, un peu détaillés, et qui exprime très bien l'absence du petit frère dans ses jeux, sa vie quotidienne. Une BD très juste sur un des deuils très douloureux et très bien vu à hauteur d'enfant.
Est-ce que vous avez d'autres bandes dessinées sur cette thématique?
Oui. Alors sur ce thème du deuil, une bande dessinée très belle qui s'appelle In Waves de Ash Dungo, c'est un jeune auteur américain. C'est la seule BD qui est produite. Ça arrive sur ce thème, on va le retrouver dans une autre BD que je vais évoquer un peu plus tard. On sent que c'est la BD d'une vie en fait, de quelque chose qui porte en eux depuis longtemps et certainement aussi un moyen pour eux d'avancer dans leur deuil. Donc, et là, c'est une thématique différente, parce que c'est la mort d'une jeune femme, une toute jeune femme qui rentre dans l'âge adulte, et c'est la première amoureuse de l'auteur, la première histoire de cœur. Et là, c'est une jeune femme qui déclenche un cancer du sang, non, des os, pardon. Et du coup, il y a tout l'accompagnement aussi de ce tout jeune couple, et c'est vraiment très très beau. Et ils avaient une passion commune qui est le surf. Donc la bande dessinée est construite de telle manière qu'elle alterne les chapitres de leur vie commune et leur passion, le surf, et remonte même jusqu'à l'histoire de ce sport. Donc c'est à la fois des moments d'aération, parce que c'est très poignant quand même. Et puis on a le plaisir de découvrir ce sport qui pour lui, on sent, exprime la vie même, quoi. Le soleil, l'été, la plage, les plus beaux moments de la vie, le plaisir de se fondre avec un élément, d'avoir un corps en très bonne santé, dont on peut faire des choses inouïes. C'est ce qui les rassemblait, c'est ce qui lui va le sauver. Il va continuer à faire du surf en hommage à ce premier amour. Et c'est une BD où on verse sa petite larme. Hein. C'est vraiment très très émouvant, très fort.
On parlait donc là de BD finalement de l'après, donc de la représentation du deuil. On a aussi repéré pas mal de BD qui parlent finalement de la fin de vie, donc de l'avant, qui mettent en scène cette fin de vie de manière très très différente. On a des personnages bien souvent âgés, en proie à la maladie, à la fatigue ou à l'impuissance. On a choisi quelques exemples. Moi je vais commencer par un manga qui s'appelle Demencia 21 de Shintaro Kago. Donc c'est un volume 1 qui est sorti très récemment chez Hubert. Donc Shintaro Kago, il est connu aussi pour des BD très horrifiques, très surréalistes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une sorte de recueil de nouvelles. Et le pitch, c'est donc une jeune héroïne, Yuki Sakai, une aide à domicile, et elle va donc s'occuper de différentes personnes âgées. Dans chaque nouvelle, on va trouver une nouvelle personne âgée de laquelle elle va s'occuper. Et ce qui est très très intéressant, très riche à la fois formellement mais d'un point de vue scénaristique, c'est qu'on a de multiples nouvelles qui vont nous offrir des multiples sens de lecture. Donc au début, elle va surtout trouver des personnes âgées très difficiles à accompagner, pour lesquelles elle va vraiment avoir des difficultés, et on va tomber bien souvent soit dans le surréaliste, soit dans l'horrifique, et elle va s'échapper in extremis à chaque fois de cette situation. On est vraiment dans une BD de SF à la frontière de l'horrifique et du surréalisme. Puis de temps en temps, donc là on peut voir ça comme un questionnement des aidants, comment accompagner une personne en fin de vie. Et puis à certains moments, ça va se retourner, c'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle où les personnes âgées vont finalement se regrouper pour créer une sorte de super-héros qui va prendre forme graphiquement et qui va parcourir la ville. Et ça donne vraiment des virtuosités graphiques.
Une autre bande dessinée sur la fin de vie, c'est Vers la sortie de Joyce Farmer. Là, on retrouve la BD unique, quoi, la BD d'une vie. C'est souvent les BD autobiographiques. C'est un moment de sa vie où elle accompagne ses parents vieillissants. En fait, c'est pas tout à fait ses parents, c'est son papa, mais c'est sa belle-mère. Elle a perdu sa mère quand elle était enfant, et du coup, elle accompagne aussi sa belle-mère. Ce qui est à la fois très beau dans cet ouvrage, c'est qu'elle est très attachée à cette femme. Elle la considère vraiment comme sa mère. Donc on voit à la fois toute la relation d'intimité qu'elles ont réussi à construire toutes les deux. Bah, ces deux personnes âgées qui restent dans leur maison, qu'elles visitent tous les jours, qu'elles aident à trier la nourriture avariée dans le frigo, faire le ménage, les toilettes. Et c'est une BD qui traite le vieillissement, contrairement à la BD qu'évoquait précédemment Aurélien. Là, elle l'évoque d'une manière très réaliste. À la fin, la maman, elle devient presque grabataire. Elle passe sa vie sur un canapé avachi. Elle est obligée de lui faire sa toilette, au gant de toilette, dans le canapé même. Elle ne cache rien, en fait, de la difficulté et du naufrage, entre guillemets, quel vieillissement. Mais ça reste profondément humain, profondément empathique. Et c'est vraiment une BD très juste sur ce qu'est le vieillissement, dans ses côtés... physique dur, mais en même temps tout le partage des souvenirs qui remontent, une tendresse vraiment profonde de la relation entre cette fille accompagnante. Et sinon, j'avais envie de parler d'une autre bande dessinée, parce qu'il est vraiment dans la thématique actuelle autour de l'euthanasie. Donc c'est une très belle bande dessinée de Judith Vanish-Tandel. Comme son nom l'indique, elle est belge. Et là, ça s'appelle « David, les femmes et la mort ». Donc David, c'est un homme qui a déjà une soixantaine et qui a refait sa vie, d'où le titre « Les femmes ». Il a une grande fille d'une première union et une petite fille de 9 ans et une compagne du coup assez jeune aussi. Quand je dis petite fille, je dis petite parce qu'elle est petite, mais c'est sa fille en fait. Et il a aussi une petite fille, la fille de sa fille, et donc il a 4 femmes autour de lui qui l'accompagnent. Alors lui, il est touché pas par la vieillesse, par la maladie, un cancer... Au début, qui cache longtemps à ses proches, puis il est obligé de finir par le dire, parce que tout le monde s'inquiète de son état de santé. La bande dessinée est très belle parce qu'elle alterne par chapitre le point de vue de chacun. Et c'est très juste aussi sur un accompagnement de vie très humain, où on fait déjà des petites cérémonies pour se préparer à se quitter. Et là, la famille va faire le choix d'une mort accompagnée, avec tout un rituel. Donc c'est très dans l'air du temps, parce que ça ramène aux questionnements de sociétaux qu'on vit actuellement. Et c'est très élégant, à la fois dans le traitement et dans un accompagnement très civilisé, je dirais, de cette mort choisie.
Une dernière BD peut-être à évoquer sur cette question de la fin de vie, qui est un peu à cheval entre le côté complètement barré de Dementia 21 et le côté très réaliste de Vers la sortie. C'est une BD qui est parue chez Ankama en 2022 qui s'appelle Shadow Life de Han Shu et Hiromi Goto. Hiromi Goto, elle est canado-japonaise, donc double nationalité. Et ce qui m'a intéressé, c'est que dans sa postface, elle interroge le fait qu'il y ait peu de représentations de femmes âgées. Je la cite, en tant que figure captivante, héroïque, forte et complexe dans la pop culture. Et donc elle a vraiment essayé de créer cette BD pour montrer, sans cacher les difficultés du vieillissement, mais de montrer un personnage assez fort de femme âgée. Et donc le pitch de Shadow Life, c'est Kumiko qui a 76 ans, qui quitte la résidence des pâturages verts, donc sa maison de retraite, son EHPAD, sans prévenir ses enfants, et qui emménage seule dans un appartement en répondant très aléatoirement au téléphone à ses filles. Donc ils vont peu à peu complètement paniquer, essayer de venir la trouver. Ce qui est assez beau, c'est que cette BD ne cache rien effectivement des difficultés de la protagoniste. Donc elle a des pertes de mémoire, des pertes d'équilibre, et le moment un peu fort finalement, c'est le moment où elle va acheter un aspirateur d'occasion, et cet aspirateur va lui servir à chasser peu à peu les ombres, la mort qui sont représentées dans la BD par l'apparition de petits cafards noirs, de grandes figures noires qui prennent de plus en plus de place dans la BD. Et donc c'est cette scène finalement qui vient au début du récit de l'achat de l'aspirateur qui va bien lui montrer comment elle va tenter de lutter et de faire disparaître la pénombre qui l'entoure peu à peu. Donc c'est un récit qui prend vraiment le temps d'expliciter les questionnements de la fin de vie et qui montre un personnage assez sympathique par ce côté je balance tout ce qui m'entoure, j'ai envie de vivre ma fin de vie comme je le souhaite et sans cacher les difficultés qu'elle a réellement. Une autre manière d'utiliser la mort dans la bande dessinée, c'est d'en faire vraiment un élément moteur de la fiction ou du scénario, c'est-à-dire que la mort n'est pas seulement soit une thématique, soit une évocation du deuil, soit une évocation de la fin de vie, mais elle devient véritablement une structure pour la narration. Donc par exemple, des personnages naviguant entre deux mondes, des vies qui vont être vécues à plusieurs reprises, des mises en scène de l'immortalité, la mort qui est mise en scène comme un personnage. Donc il y a différentes BD qui font de la mort un élément structurant de la fiction. Moi, je vais en évoquer deux ou trois même. La première, c'est Day Tripper, Au jour le jour, de Fabio Moon et Gabriel Ba, qui est sorti de mémoire en 2012 chez Urban Vertigo. Et donc, en fait, ils imaginent le parcours d'un homme qui écrit des nécrologies, quand même. Déjà, c'est sa première caractéristique. Et chaque chapitre, en fait, va imaginer une de ses fins de vie, et donc on va avoir un chapitre qui imagine sa fin de vie à 32 ans, qui imagine sa fin de vie enfant, qui imagine sa fin de vie beaucoup plus tard. Et cette manière de chapitrer, de couper la narration par sa fin de vie, par sa mort, va donner quand même une sorte de synthèse, de quintessence, de tranche de vie et de la manière dont ça aurait pu finir s'il s'en était arrêté là. Donc on comprend que comme la BD continue, sa vie a continué, elle aussi, mais ça donne des coups de projecteur sur des temps de sa vie, des fragments de vie, des moments où il en était. Donc il y a la mort de son père, la naissance de son fils, son divorce, ses relations amicales, sa jeunesse, son adolescence. Et ça donne vraiment une force à ces différents fragments par le fait que la narration est scandée par différentes morts et différentes façons de décéder. Par exemple, à la fin du chapitre 4, on imagine, enfin, il est représenté sa mort à 41 ans. Et le texte dit « Écrivain comme son père, proche de sa famille comme sa mère, le succès de son premier roman et la naissance de son fils avaient fait de lui le plus épanoui des hommes. Malheureusement, son père ne vécut pas assez longtemps pour connaître son petit-fils et sa mort fut trop dure à supporter pour le cœur de Brass. » C'est le nom du protagoniste. « Une fois de plus, Brass marcha dans les bras de son père. » et décéda d'une crise cardiaque à l'âge de 41 ans, laissant derrière lui une femme aimante, Anna, et leur nouveau-né Miguel. Et donc ça, chaque chapitre se termine comme ça, par sa propre par la propre nécrologie en fait de l'auteur. Cette BD donc de deux auteurs brésiliens, Fabio Moon et Gabriel Ba, fait vraiment écho à une BD plus récente qui s'appelle Toutes les morts de Leila Starr de Ram 5 ou Ram V, je ne sais même pas comment on prononce, et Felipe Andrade, donc des auteurs américains et portugais, qui a été publié aussi chez Urban. Une BD déjà qui est très très colorée, qui se passe en Inde. Leila Starr en fait c'est la mort qui serait devenue mortelle. Le roi des dieux lui dit, on est désolé, mais un humain a trouvé le secret de l'immortalité. Donc en fait, tu n'as plus lieu d'être, donc tu deviens mortel et tu vas aller sur la terre. Et finalement, toute sa vie, elle va essayer de trouver cet humain pour l'empêcher de créer le secret de l'immortalité. Et à nouveau, on va trouver des chapitres où Leila Starr va donc quitter la Terre et renaître, puisqu'elle a quand même un bon ami qui est le dieu de la vie, qui va à chaque fois lui permettre de revenir sur Terre, et ça va à nouveau se découper en tranches de vie et en péripéties. Donc à chaque fois, on la retrouvera auprès de son bon ami, la vie, 12 ans après, le jour où Leila Starr s'est noyée, et on repart dans un schéma narratif. Donc on voit bien que dans ces deux BD, la mort est utilisée vraiment comme moteur de la narration, de la fiction, du scénario, du rapport au temps, du découpage des chapitres. Une autre façon de traiter la mort dans la bande dessinée, c'est évidemment tout ce qui concerne les bandes dessinées fantastiques et horrifiques, avec des personnages très connus dans la pop culture, que sont les zombies, les morts-vivants, les vampires, l'au-delà. Et là, on a vraiment pléthore de bandes dessinées, de références cinématographiques, une des peut-être plus connu, c'est quand même Walking Dead. Donc déjà, dès le titre, on retrouve cette idée des morts marchands. Il y en a beaucoup d'autres, des BD qui mettent en place cette matière de la mort comme imaginaire récurrent, horrifique. Je pense encore à un maître de l'horreur japonais, Junji Ito, dont ont été publiés un recueil de nouvelles qui s'appelle « La mort et l'amour » chez Mangetsu. Et ce qui est très beau dans ce recueil des nouvelles, c'est qu'il utilise les croyances et le folklore local pour le réadapter en manga horrifique. La première nouvelle, par exemple, est magnifique. Dans la ville où il se trouve, là, au Japon, il y a une croyance qui dit que le premier venu à un croisement des chemins, si on lui demande notre avenir, il pourra le prédire. Sauf que apparaît un très beau jeune homme, il ne prédit pas seulement l'avenir, mais ça devient quelqu'un qui tue les gens. Donc la première nouvelle brode autour de cette thématique. On peut citer d'autres titres assez récents, un comics de James Tynion et Alvaro Martinez, The Nice House on the Lake. On va pas en dire plus, mais j'invite les gens à le lire, puisque c'est un peu un thriller à la Stephen King. On ne sait pas tellement ce qui va se passer avec le tome 1, mais c'est assez intriguant en tout cas.
On a vu l'autobiographie, on a vu le réalisme, la fiction, le fantastique. Et si on allait sur l'humour aussi, parce qu'il y en a dans la bande dessinée.
On en a trouvé un petit peu. Il faut chercher, mais on en trouve, heureusement. J'ai trouvé deux bandes dessinées qui mettent en scène notre fameuse faucheuse, n'est-ce pas ? Il y a une première bande dessinée produite par Book, un dessinateur aussi assez virtuose, de la bande dessinée française, qui a imaginé les aventures de la mort, donc d'une faucheuse, et de Lao Tse, son cochon domestique. Et voilà, donc et le titre s'appelle « La rage de vivre », ce qui est rigolo pour un sujet pareil. Et voilà, donc notre faucheuse et Lao Tse cheminent en essayant bien se mettre quelque chose sous la faux, justement. Et ce qui est rigolo, c'est que à chaque chapitre, le personnage dont elle souhaite s'emparer arrive à déjouer son projet. C'est très rigolo. La première histoire, c'est une grand-mère, un peu genre la mère Denis, qui trouve que les haillons dont est affublée la faucheuse sont absolument dignes d'une lessive. Donc elle la retient comme ça, en lui faisant sa lessive. Et puis après, voilà, elle n'a plus le courage de l'emporter. Et une autre bande dessinée aussi qui met en scène la faucheuse, c'est Mortel de Marc Dubuisson et Thierry Martin. Donc c'est chez Patacès, une petite bande dessinée carrée qui est aussi sous forme de strip, alors plus court, c'est des strips de 4 cases. Et à l'inverse de Book, où la faucheuse ne gagne jamais, là la faucheuse gagne tout le temps en fait. Mais on rigole quand même, parce que c'est les mots souvent un peu raté de la fin de vie du personnage concerné, voilà, qui meurt, mais qui est content d'avoir trouvé juste avant de mourir son ticket de cantine ou voilà des petites choses à l'avenant. Donc voilà, deux bandes dessinées pour dans la rubrique Rions un peu avec la mort.
Et un autre titre qui n'est pas forcément tout le temps comique, mais qui est une petite curiosité, un album de Cecilia Ruiz, qui est une autrice mexicaine, qui s'appelle Le Livre des Morts Extraordinaires et qui a été publié chez Cambourakis. C'est un livre assez étonnant qui relate la fin de vie, peut-être parfois cela tient de la légende, mais la fin de vie assez extraordinaire de différents personnages ou d'illustres inconnus. C'est un très bel objet, format à l'italienne. Sur chaque page, en fait, on a une pleine page avec le dessin et l'autre pleine page avec le texte qui dit et explique assez laconiquement la manière dont ces personnages ont perdu la vie. C'est parfois très touchant, parfois très drôle. Le graphisme est très ténu, ce qui contraste bien avec le côté extraordinaire de ces morts, ce qui fait un objet assez complet. Je peux vous lire quelques exemples. Par exemple, la mort sans doute légendaire d'Eschyle, mais qui est quand même le père fondateur de la tragédie grecque, ce qui rajoute à l'absurde ou au comique de la chose. Donc Eschyle, 5e siècle avant Jésus-Christ, écrivain athénien considéré comme le père fondateur de la tragédie grecque, mourut lorsqu'un aigle passant haut dans le ciel lâcha une tortue qui tomba sur sa tête. Il est dit que le volatile aurait peut-être confondu son crâne chauve avec une pierre susceptible de briser la carapace du reptile. Au-delà du côté anecdotique, parfois absurde, parfois tragique, parfois très touchant, c'est un livre aussi qui se tient parce qu'il installe une petite narration qui est faite, une métaphore de la mort, puisqu'on a un chasseur ou une chasseuse qui, pendant tout le livre, va pointer sa flèche vers un animal qui ressemble à une biche un petit peu, et donc qui va parcourir le livre entre les différentes morts extraordinaires, qui va tenter d'échapper à cette flèche et qui va finir par succomber à la toute fin du livre. Donc on a aussi cette métaphore de la thématique qui est brodée tout autant du texte et donc qui finit par cette biche sur laquelle la flèche a réussi à se fixer.
Merci à tous les deux pour votre présence et vos trouvailles. La bibliographie plus exhaustive sera disponible en commentaire du podcast. Vous la retrouverez également sur le site web de la Bibliothèque des Champs Libres. Je suis Lucille Milliard, réalisatrice de La Mort, tout un art. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration du podcast et à Florian Kuhn pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.
Cet après-midi, quand vous prendrez la voiture, surtout faites bien attention à ne pas mourir. Cet après-midi, quand vous prendrez la voiture, surtout faites bien attention à ne pas mourir. Ou alors si vous y tenez vraiment, c'est pas si grave parce que ça me fera une bonne excuse pour être si triste. Enfin une excuse pour être si triste. Cet après-midi quand vous prendrez la voiture, surtout faites bien attention à ne pas mourir. Cet après-midi quand vous prendrez la voiture, surtout faites bien attention à ne pas mourir. Ou alors si vous y tenez vraiment, c'est pas si grave parce que ça me fera une bonne excuse pour être si triste. Enfin une excuse pour être si triste.
La voiture d'Alice sur Canal B, c'est une presque nouveauté musicale puisque c'est un morceau de l'album L'Oiseau Magnifique qui est sorti au mois de mars chez les disques Bongo Joe. Alice, c'est un trio féminin super chouette qui nous vient de Genève. Vous êtes dans L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. On poursuit et termine avec la recommandation du jour. Et mon conseil du jour, il est double. On commence par aller prendre son petit-déj à la ferme dimanche matin, car c'est la fête du lait bio, 19e édition ce week-end. Un événement piloté par AgroBio 35, groupement d'agriculteurs biologiques. Et alors, les fermes qui vous accueillent, il y a Yvonique et Sylvie sur la ferme Diffère le Thor à Assigné, de 9h à 12h30. Philippe et Émilien de la ferme du Gros Chêne à Béton, là toute la journée, de 9h à 17h. Et puis Christian et Isabelle du GAEC de la Cossonay à Pirée-sur-Sèche, de 9h à 12h30. À chaque fois, en plus du petit-déj, des visites sont proposées, puis d'autres animations qui varient selon le lieu. Les tarifs vont de la gratuité pour les moins de 3 ans à 7€ en tarif plein. Et pour les réservations, ça se passe sur le site yourplan.com. Une dernière ferme ouvrira ses portes au public le week-end suivant, c'est celle de Mathieu à la ferme des Petits Chapelets sur la commune de Chavagne. Donc ça, c'est dimanche 11 juin de 9h à 16h30. La deuxième sortie pour le week-end, on va à l'écomusée de la Bintinet à Rennes, tout près de la station de métro Triangle, où est proposé un marché des producteurs dimanche 4 juin l'après-midi de 14h à 19h. Un événement qui est proposé par la Fédération des races de Bretagne et les associations adhérentes en lien avec l'expo qui est toujours à voir à l'écomusée sur les races locales. Et le même jour, toujours à l'écomusée, des ateliers découvertes sont proposés. Ça se déroule sous forme de balade dans les chemins creux du parc pour en apprendre plus sur la faune sauvage de la haie bocagère. Trois horaires de départ sont proposés, 14h, 15h30 et 16h30. Et surtout, c'est gratuit. La Reine, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.